Chers auditeurs et auditrices du studio Kalungu, bonsoir et bienvenue au Forum Espace Femmes. Aujourd'hui, nous allons parler des violences basées sur le genre. Pour lutter contre ces pratiques, 16 jours d'activisme sont décrétés par les Nations Unies pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Malheureusement, elles ne sont pas les seules concernées. Dans cette émission, nous allons mettre l'accent sur le cas des violences exercées par les parents sur les enfants. Qu'est-ce qui est considéré comme violence? Quelles sont les formes de violence les plus fréquentes ici au Niger, notamment celles qu'on rencontre dans le cadre familial? Qu'est-ce qui pourrait expliquer la violence d'un parent envers son enfant? Quelles pourraient être les conséquences sur l'enfant? Comment prévenir ces violences sur les enfants dans les familles? Quelles sont les voies de recours? À ces questions, nous allons tenter de répondre en compagnie de Madame Hawa Sadou Amadou, du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, direction de la protection des droits de la femme, en compagnie de Monsieur Alzouma de l'ONG SOS Fève Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, et enfin de Madame Khadidia Idani, présidente de la AJFSR, Niger, Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction. Je suis Rafika Taher à la présentation. Le cadre familial est le principal lieu de production des violences. Selon une étude sur l'ampleur et les déterminants des violences basées sur le genre effectuée en 2021 par le ministère nigérien de la promotion de l'enfant, plus de 30% des violences émanent des parents. Pour planter le décor, comment définir la violence et la violence basée sur le genre, Madame Hawa Sadou?
Les violences basées sur le genre se définissent comme tous les actes de violence de tout type subis par une femme ou un homme contre son gré du fait de son sexe.
Quelles sont les différentes formes de violence exercées sur les enfants dans le contexte du Niger?
Et les différents types de violences exercées sur les enfants sont entre autres le mariage précoce, le mariage forcé, la déscolarisation de la jeune fille et la non-scolarisation de la jeune fille.
Monsieur Alzouma, bonsoir. La même question pour vous. Quelles sont les violences assez fréquentes dans le milieu familial?
Dans une large mesure, du moment où le Niger a le triste record dans le monde des cas des enfants qui sont mariés avant l'âge requis. Et nous avons aussi les coups et blessures volontaires, donc qui rentrent dans le cadre des violences physiques dont les enfants sont victimes. Et nous avons aussi les privations des biens, donc privations de nourriture, donc comme classe aussi dans ce qu'on a appelé le déni de ressources, d'opportunités et de services. Donc, qui englobe toutes les privations dont l'enfant donc, peut être victime dans le cadre familial. On ne peut pas aussi occulter le fait que la plupart des cas de viol sont perpétrés sur les enfants. Quand vous prenez par exemple sur 10 cas de viol, vous allez voir que 7 à 8 sont perpétrés sur des enfants. Deux fois des enfants à bas âge.
Donc, dans le cadre familial.
Donc les violences sexuelles, bon, les violences sexuelles, c'est toujours dans le cadre familial. En tout cas, dans une large mesure, quand vous voyez un enfant victime de viol, et si on essaie de faire un peu, d'inquiéter un peu, vous allez voir en fin de compte, c'est quelqu'un qui n'est pas très loin de la famille qui a perpétré cela. Donc on peut dire que c'est aussi une forme de violence qui est perpétrée au sein de la famille.
D'accord. Madame Khadidjatou, au sein de votre association, qu'est-ce que vous faites pour ce genre de cas? Des enfants qui subissent des violences au sein de leur famille.
Avant de répondre à cette question, au-delà par exemple de la question des différents types de viols et tout, il y a surtout la violence psychologique et émotionnelle, que là c'est directement les parents. Surtout le contexte du Niger, il y a des insultes, des paroles qui agissent directement sur l'émotionnel de l'enfant, qui créent un certain déséquilibre, souvent qui, à la longue, ça impacte non seulement que ça soit ses rapports avec ses autres, avec les autres dans la société. Maintenant, nous, personnellement, ce que nous faisons, c'est vraiment la sensibilisation. Nous essayons de sensibiliser les parents, surtout, sur l'importance de parler avec les enfants, de les rassurer à chaque fois, de les suivre, d'être vraiment des confidents pour ces enfants et de créer cette confiance-là. Ça permet aux parents et aux enfants de ne pas être plus exposés, que ça soit au viol, que ça soit aux violences physiques, et également les écouter, les mettre dans un environnement où les parents vont comprendre plus leurs besoins pour ne pas, par exemple, aller vers le mariage des enfants et tout ça. Et on les sensibilise également sur leur responsabilité parentale, surtout dans ce contexte où on est en plein séjour d'activisme. Mais au-delà, nous avons compris que peu importe avec l'étude et les déterminants que vous avez et évoqué tout à l'heure, et au-delà de l'ensemble de nos actions que nous faisons, nous avons compris que les parents, le cadre familial est vraiment un cadre propice de développement des VBG. Ça commence toujours là-bas. Et du coup, donc, nous mettons également les parents au centre de nos sensibilisations, nous adaptons des messages clairs et spécifiques par rapport à ça pour interpeller chaque parent, pour interpeller chaque membre de la communauté à sa façon sur ces questions de violence sur les enfants qui vont continuer après.
Mm-hmm. Madame Hawassadou, est-ce que cela est synonyme de maltraitance?
Quand on dit violence sur les enfants, et c'est évidemment qu'on parle de maltraitance. La maltraitance, c'est un des types parmi tant d'autres de violences à l'égard des enfants. C'est bel et bien une maltraitance. Parce que le fait d'empêcher à la jeune fille d'aller à l'école, ça, c'est une maltraitance parce qu'on lui a privé son droit à l'éducation. C'est aussi une maltraitance quand on subit une fillette à un mariage forcé. Le fait même de marier une fille avant l'âge de 18 ans, c'est-à-dire avant qu'elle ne soit mature, c'est aussi une maltraitance parce que ce n'est pas aux parents de choisir le conjoint à la place de la fille.
D'accord. Monsieur Alzouma, tout à l'heure, vous avez parlé de violence physique. Comment reconnaître donc qu'un enfant subit des violences dans la famille? Quels sont les signes?
Quand un enfant est victime de violences, il y a des signes quand même qui sont apparents, donc des signes physiques, donc notamment les blessures, donc on peut facilement reconnaître. Mais il y a aussi des signes qui ne sont pas apparents, donc... L'interlocutrice qui m'a précédé avait parlé de violence psychologique. Effectivement, c'est une forme qui est transversale à toutes les formes. Parce que toute personne qui est victime de violence, elle est sur le plan psychologique. Au-delà de l'aspect apparent, il y a toujours un traumatisme qui accompagne cela. Et des fois, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. En dehors du fait qu'on peut voir les blessures, les traces, donc, mais pour un enfant peut-être qui... et ne montre pas ces signes-là et qui n'a pas un âge donc de peut-être de parler. Donc c'est vraiment à travers son comportement qu'on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui le dérange. Et maintenant, l'expertise approfondie qu'on va faire, que ce soit au niveau médical ou au niveau psychologique, on va nous permettre de savoir réellement que cet enfant-là est victime de violence et de telle forme de violence et en conséquence, il faut agir pour qu'on puisse vraiment remédier à cela.
Mmh. Qu'est-ce qui pourrait donc expliquer la violence d'un parent envers son enfant?
A priori, moi je dis toujours qu'il n'y a aucun parent qui peut vraiment, de manière délibérée, et en toute connaissance de cause, en tout cas, porter atteinte à l'intégrité physique de son enfant. Ça, c'est le principe. Mais dans les faits, on constate qu'il y a certains parents qui peut-être souffrent de certains troubles de comportement, qui agissent de façon vraiment qu'on ne peut même pas expliquer. Et il y a d'autres aussi que c'est sous le couvert de l'éducation, donc, et qu'ils pensent qu'en bastonnant ou en opérant certaines formes de violence à l'endroit de leurs enfants, ils vont pouvoir les redresser. Or, on sait que la violence n'a jamais redressé qui que ce soit. Donc, les enfants, on doit les chérir. Il y a des différentes étapes de la vie d'un enfant qu'on doit suivre. Et à chaque évolution, on sait qu'il y a des comportements qui sont adaptés à cet âge-là. Et nous, parents, on devrait tenir compte de cela pour savoir que quand nos enfants agissent d'une façon, on doit les suivre, on doit les éduquer, on doit les rappeler à l'ordre, attirer leur attention pour leur montrer que cela n'est pas bon. Maintenant, certes, il y a certains enfants qui peuvent aussi être récalcitrants. Et cela aussi, ce n'est pas la faute des enfants. les enfants ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Par exemple, si c'est un foyer dans lequel il y a des violences, par exemple à l'endroit au sein du couple, l'enfant a toutes les chances donc de prendre cela et de le répercuter sur sa vie d'abord en tant qu'enfant, mais aussi sur sa vie future.
Donc la violence transgénérationnelle.
Voilà. Moi, je pense que l'éducation des enfants doit être quelque chose de très important pour nous et nous devons tout faire pour que nous n'inculquons pas à nos enfants des comportements qui seront de nature vraiment à les mettre en danger ou alors nous-mêmes faire des actes qui vont en tout cas aller à l'encontre du développement psychologique et physique de nos enfants. Donc là, je pense que c'est vraiment beaucoup d'attention qu'il faut apporter à cela. Et aussi la manière avec laquelle nous devons éduquer nos enfants pour que vraiment ces enfants puissent être des modèles, pour qu'ils puissent vraiment grandir dans de bonnes conditions, conformément à tous les vœux de nos différentes communautés.
Madame Kadigatou, comme je l'avais dit précédemment, une enquête du ministère de la Promotion de l'Enfant ressort que 32,4% des enfants sont victimes de violences au sein de leur famille. Comment est-ce que vous expliquez ce taux?
Ce taux est carrément, je ne dirais pas justifié, mais ce qui peut expliquer ce taux, il l'a dit tout à l'heure, c'est du point de vue culturel ou question d'éducation, de tradition de notre société. On pense que, comme il l'a dit tout à l'heure, pour bien éduquer un enfant, il faut être méchant, il faut être sévère, il faut être rigoureux. Et dans la rigueur, on met même la violence physique, ne pas être tendre avec les enfants, ne pas être gentil avec les enfants, si on veut que l'enfant devienne un bon responsable ou un exemple demain. Donc c'est ce qui favorise vraiment et qui nous amène justement à ce taux. Parce que c'est vraiment ancré dans la culture, dans la tradition, qu'il faut ça pour mieux éduquer un enfant. Malheureusement, c'est pas le cas. Les parents font plus de mal aux enfants que de bien en pensant les éduquer comme ça.
Quand l'environnement n'est pas satisfaisant, les conséquences sont forcément lourdes sur la victime, l'enfant.
Ouais.
Quelles pourraient donc, dans ce cas, être les conséquences sur l'enfant?
Je dirais sur l'enfant, la première conséquence déjà est que l'enfant ne sera pas vraiment stable psychologiquement, parce qu'elle sera vraiment traumatisée et l'enfant aura du mal à entretenir des bonnes relations, que ce soit avec ses parents, mais également avec ses pères jeunes. L'enfant deviendra comme un incompris dans la société, parce qu'il ne se trouvera pas à sa place et ça va conduire à poser des actes. Par exemple, à se mettre à l'écart, à ne pas avoir envie, à ne pas être sociable. Et ça va encore amener les gens à juger l'enfant, peut-être à le trouver hautain, telle chose. Ça peut également conduire à la consommation carrément des stupéfiants, parce que quand tu as une enfance traumatisante, quand tu as vécu toutes ces choses-là, à un moment avec l'environnement dans lequel nous vivons, que ce soit en milieu scolaire ou tout, où maintenant la consommation de stupéfiants prend de l'ampleur, peut-être pour pouvoir se soulager, et l'enfant peut trouver refuge dans ça.
D'accord. Madame Hawa, est-ce que vous avez d'autres conséquences à nous dire? Les conséquences qui peuvent émaner de la violence sur les enfants?
Les conséquences qui peuvent émaner de la violence sur les enfants, quand nous prenons sur l'aspect du mariage précoce, un enfant qui est marié précocement peut avoir des conséquences comme la fistule obstétrique, c'est-à-dire que vraiment l'organisme de l'enfant n'est pas bien conçu pour supporter une grossesse. Donc, à l'accouchement, la femme peut être victime d'une fistule. La majorité des femmes fistulées, ce sont les femmes qui ont contracté leur première grossesse avant l'âge de 15 ans.
Et quand donc, des conséquences aussi sur la santé.
Sur la santé.
Oui.
Quand nous prenons les conséquences encore sociales, il y a beaucoup de filles qui deviennent des prostituées parce qu'à l'âge adulte, ils se retrouvent avec un homme. Ils ne savaient pas par quelle manière, parce que le mariage a été précoce. Une fois que la femme est mature, il va se rendre compte que ce n'est pas le monsieur qu'il lui faut et il va tout faire pour chercher le divorce. Et une fois divorcées, d'autres se retrouvent dans la rue, dans la délinquance sexuelle. Et d'autres conséquences sur le plan éducatif, il y a l'analphabétisme couplé à la pauvreté. La fille, elle est déscolarisée, elle n'a pas le niveau scolaire et en même temps la pauvreté parce qu'elle n'a pas appris un métier lui procurant un revenu.
Monsieur Alzouma, quelles répercussions ces violences peuvent-elles avoir sur la famille elle-même et sur la société?
Bon, d'abord sur la famille, donc il y aura beaucoup de conséquences, notamment la perte de cette progéniture. Par exemple, les enfants, toute la famille donc, a tendance à vouloir quand même une cohésion au sein de la famille. Mais avec ce genre de violence, vous allez voir, on va faire des enfants traumatisés. Et sur le plan scolaire, comme les autres l'ont dit, ils accuseront un retard. Et ils ne seront pas capables de faire une relation saine avec les membres de la famille, aussi avec les enfants au-delà de la famille. Donc c'est pratiquement une enfance, si on peut le dire, qui va se gâcher. Et avec toutes les conséquences, parce que tout acte que l'enfant va poser, que ce soit dans la famille ou en dehors de la famille, les conséquences vont se répercuter sur la famille. Si par exemple un enfant est violente un autre enfant de son âge, de sa famille, si ça devrait aller au niveau des services de santé, les frais liés donc à ces interventions-là vont se retrouver sur la famille. Mais s'il y a une plainte aussi qui est posée au niveau des tribunaux, encore c'est la famille qui va se subir tout cela. Donc vraiment les conséquences sur la famille sont incalculables. Maintenant, au-delà de la famille, donc parce que c'est l'ensemble des familles qui constituent une communauté, donc la communauté, du coup, donc va recevoir un coup. Il y aura une communauté aussi où les enfants seront des délinquants, donc ça sera invivable. Et aujourd'hui, la plupart des maux que nous sommes en train de courir à gauche et à droite pour lutter contre sont les résultats de cela. Vous allez voir aussi le phénomène de mendicité qu'on rencontre aussi en partie. C'est dû à ça, parce que c'est des enfants de foi qui quittent leur famille pour revenir dans la rue, ou bien qui quittent carrément leur village pour revenir dans des grandes villes et faire s'adonner à de la drogue. Et vous savez que quand les enfants commencent à utiliser de la drogue, ça veut dire que cette jeunesse-là, elle est perdue. Mm-hmm. Parce qu'on ne va plus avoir des personnes saines qui seront capables de réfléchir, de poser des actes de développement au niveau de leur pays, parce qu'ils seront toujours là à chercher à gauche, à droite, à des petits vols, à de quoi acheter de la drogue pour construire. Donc pratiquement, et la jeunesse, c'est ça même la vitrine d'une communauté. Or, si la jeunesse se perd, donc c'est toute la communauté qui perd son repère. Donc du coup, vraiment, et je crois que les violences au sein des familles doivent être éradiquées. En tout cas, on devrait continuer à entreprendre des sensibilisations pour qu'il n'y ait plus de violence, pour que nos enfants puissent être éduqués dans de bonnes conditions, qu'on puisse avoir vraiment des personnes saines d'esprit, donc et physiquement aussi sains, pour qu'ils puissent vraiment développer notre pays.
Au sein de votre ONG, ONG FEV, est-ce que des enfants victimes de violences sont déjà venus vers vous?
Oui, les enfants victimes de violences viennent tout le temps, parce que vous savez, et un élément aussi qui est important et qu'on doit avoir à l'esprit, c'est que plus on a des femmes qui sont victimes de violences, autant on en a des enfants aussi. Parce que toute action de violence faite à l'endroit d'une femme nécessairement va avoir des répercussions sur l'enfant. Soit parce que l'enfant il est témoin de cette violence et qu'il va la répercuter dans sa vie future, soit parce que le fait que la femme est victime de violence et le fait que les droits de cette femme-là ne sont pas respectés, ne sont pas bafoués, ça va faire en sorte que cette femme-là ne peut pas jouer pleinement son rôle au sein de la famille. Mm-hmm. Parce que c'est une femme diminuée. Donc, et du coup, donc elle ne va pas répondre convenablement donc à l'œuvre de protection et d'éducation des enfants. Donc ça veut dire que du coup l'éducation là va être biaisée et les enfants vont être laissés à eux-mêmes. Donc ils vont faire ce qu'ils veulent et du coup c'est toute la famille qui va en pâtir et au-delà de la famille, c'est la société toute entière qui va en pâtir. Donc, nous recevons des cas des enfants qui sont victimes de maltraitance.
Et qu'est-ce que vous faites pour eux?
Bon, c'est
la prise en charge.
La prise en charge, elle est pratiquement, le schéma, elle est le même. Au-delà de l'aspect prévention que madame avait évoqué, donc pour qu'il n'y ait pas des cas des victimes, et quand elle survient, en ce moment-là, il y a un schéma donc de prise en charge qui est là, en fonction donc de la nature ou de la forme de la violence. Parce qu'à chaque forme de violence correspond une réponse adaptée. Si c'est des cas des enfants qui sont victimes de viol, donc le schéma, il est tout autre. C'est d'abord l'accueil, l'écoute, parce que c'est des éléments qui sont importants. Quand vous accueillez une personne de manière correcte, cette personne-là aura confiance en vous et elle va vous dire tout ce qu'elle a sur le cœur, tout ce qu'elle a amené. Et c'est ça qui va vous permettre de poser votre diagnostic pour voir quelle réponse apporter. Et en fonction des besoins, maintenant, on va voir chez quel acteur orienter ce cas-là pour qu'il puisse être pris en charge de manière convenable.
Nous allons maintenant écouter quelques témoignages sur la question.
Vraiment, mon père, il est trop sévère. Dès qu'il rentre, il gronde les gens par-ci et par-là pour pas grand-chose. Quand, par exemple, il trouve la vaisselle non faite ou la maison un peu en désordre, il pète les plombs. Il est vraiment trop pointilleux, trop sur mon heure, tout le temps en train de nous crier dessus, mes frères et moi.
La femme chez qui je loge, je vois de n'importe quoi, parce que je ne pars pas à l'école sans pour autant faire les travaux domestiques. Si elle a des affaires, il faut que je le fasse avant d'aller à l'école, même si j'irai en retard. Et c'est pour cette raison que même si je pars à l'école, je ne suis pas concentrée sur les cours. Même si je suis à l'école, je ne fais que penser à la maison, parce que j'imagine toujours ce que je vais trouver à la maison comme travail. Elle ne fait que me gronder, pour rien du tout. Dans la maison, j'ai pas de tranquillité. Même pour faire son lit, c'est à moi de le faire. Je vois du tout dans cette maison. Même si j'aimerais entreprendre quelque chose de bien, si elle décide que je le ferai pas, je le fais pas. Même si je désire sortir avec mes amis, elle refuse. Chaque jour, je pleure, je suis coincée et maltraitée.
Dès qu'elle se dispute avec son mari, c'est le petit qui paie les pots cassés. Elle va s'en prendre à lui. Elle va le chicoter comme pas possible à longueur de journée. C'est un petit élève de CE1. Un jour, il s'est rendu chez un de ses amis. Quand il a vu la façon dont la mère de son camarade le traite, il était impressionné. Il a même refusé de rentrer à la maison. Il pleurait. Il ne veut pas rentrer. Il dit à son ami, « Moi, on me bat tous les jours. Par contre, toi, ta mère, elle est très gentille. C'est pour cela que je ne veux pas rentrer chez moi. » Et il éclata en sanglots. J'attire vraiment l'attention de mère. Il ne sert à rien de frapper son enfant, car ça le rend bizarre, effrayé. Chaque fois, l'enfant se sent menacé. Il n'a pas la conscience tranquille. De grâce, les parents, ne battez pas vos enfants. L'enfant, c'est la compréhension, c'est l'affection, c'est la causerie. Arrêtez, s'il vous plaît, de battre vos enfants pour leur bien.
Au moment où l'enfant est censé grandir psychologiquement et mentalement, il n'y arrive pas. Il devient un peu zinzin dans sa tête. Mais comment voulez-vous qu'un enfant soit bien éduqué si dès au départ les parents ne s'investissent pas dans son éducation? Un enfant, lorsqu'il commet une faute, il faut savoir quelle correction lui donner. De nos jours, le châtiment corporel ne sert pas à grand-chose et il faut plus menacer et faire peur à l'enfant que de le battre tout le temps. Parce que s'il s'habitue au coup, ça ne servira plus à rien. Et une fois que l'enfant grandit, les parents veulent de lui qu'il soit obéissant et bien éduqué, alors qu'ils ne lui ont rien montré dès au départ. Et là, ce n'est plus possible.
Madame Kadijato, quelle lecture faites-vous de ces témoignages?
Je ne sais même pas trop quoi dire. C'est vraiment émouvant et quand même triste d'écouter ces témoignages. Ça nous interpelle tous face au danger auquel nous nous exposons tous, parce que on est en train quand même de forger. Je me demande quel genre de personne on est en train de construire comme ça pour le monde que, dans lequel nous vivons, mais également pour les générations futures. Parce que imagine un enfant qui n'aime même pas être avec son parent. Et imagine, c'est des enfants, tu vas penser qu'en les violentant, peut-être les fait peur ou quelque chose comme ça, alors que ces enfants n'ont aucun respect pour ta personne. Ces enfants ne t'estiment pas. Ils ont peur de toi, oui. Mais il n'y a rien comme respect, toi, en tant qu'adulte et tout. Et l'éducation que tu penses les assurer, tu es plutôt en train d'échouer dans cette éducation-là. C'est vraiment dommage, je le disais tout à l'heure. Et je me dis que nous devons redoubler vraiment plus d'efforts dans nos actions de sensibilisation. Et c'est déjà ce que nous faisons et ce que vous faites également. C'est quand même triste.
Mm-hmm. Ouais. Madame Hawa, votre lecture par rapport à ce témoignage?
Par rapport à ce témoignage, il y a une femme qui est en train de dicter la bonne conduite des parents envers les enfants. Elles disent de ne pas bastonner, ce n'est pas la bastonnade qui dresse l'enfant. Et elle dit aussi de porter beaucoup d'affection à l'enfant, de prendre soin de l'enfant, de créer un climat de confiance entre l'enfant et les parents pour que l'enfant puisse s'épanouir, puisse vraiment se délibérer, puisse confier à son tour ce qu'il a à ses parents. Et par contre, il y a une autre famille qui maltraite ses enfants. Les enfants eux-mêmes sont conscients de cette maltraitance. Et l'enfant explique comme quoi elle vit dans un enfer, dans son cadre familial. Et par conséquent, vraiment, ces enfants-là qui sont maltraités, ça répercute sur toute la société. Parce que quand ils deviennent des délinquants, ils vont vraiment nuire à toute la société par des vols, par des viols, par des actes de crime.
Et vous, M. Alzouma?
Moi, ce que je compose de ce témoignage-là, c'est qu'on doit comprendre que la famille, c'est un cadre par excellence d'épanouissement des enfants. Donc, ça ne saurait en aucune façon être un lieu de frustration pour les enfants. Donc, ce n'est pas le fait que quand un parent rentre dans la maison que les enfants cherchent à se cacher. Moi, je me dis que c'est vraiment contraire à l'objectif même de l'harmonie au sein de la famille. Quand vous rentrez, vos enfants devraient être contents et aller vous accueillir à bras ouverts, vous les prenez. C'est ça le climat familial que nous voulons vraiment instaurer. Mais le contraire serait vraiment un échec, si on peut le dire. Parce que c'est pas en frappant les enfants ou en posant des actes capables de les traumatiser, c'est pas en faisant cela qu'on va faire des enfants responsables. Mm-hmm. Il faut mettre les enfants aussi devant leurs responsabilités pour qu'ils sachent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est seulement en ce moment-là que, même si vous n'êtes pas là, ils vont se conduire de manière bien et ils vont se forger, en tout cas pour être vraiment des vrais hommes et femmes de demain. Mm-hmm. Donc moi, c'est ça la conclusion que je voulais.
On continue toujours avec vous, M. Alzouma. L'une des raisons de la violence des parents envers les enfants, c'est vouloir les éduquer. Mais quelle est la limite entre vouloir éduquer et la violence?
Bon, vous savez, la violence, on dit qu'elle se nourrit toujours de la violence. Quand vous habituez un enfant à la violence, quand vous habituez à le battre, c'est qu'à chaque fois, il va attendre à ce que vous le battez pour faire quelque chose. Et en fin de compte, il va même devenir insensible, même à ces violences-là, parce qu'il va devenir vraiment un vrai récalcitrant. Moi, je préfère encore plus qu'on responsabilise l'enfant. Quand il fait quelque chose de bon, on lui dit que c'est bon, on le félicite. Et quand il fait quelque chose de n'est pas bon, on lui dit que c'est pas bon, on le réprimande en lui montrant la bonne voie. Et vous allez voir demain, il va se corriger. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mais quand on dit qu'on va battre les enfants, on a vu que la bastonnade n'a jamais réglé un problème et n'a jamais redressé un enfant. Mm-hmm. Parce qu'à un certain moment, les âges partent, vous vieillissez, l'enfant grandit. Et jusqu'à quand vous allez continuer à battre l'enfant? Peut-être D'accord. Un jour, quand vous allez le battre, il va rendre le coup et en ce moment, la menace, c'est la fin.
La Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par l'État du Niger en 1990 et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ratifiée en 1996 consacrent le droit de l'enfant à la protection contre toute forme d'abus, violence et exploitation. Malgré toutes ces batteries d'instruments juridiques, les enfants continuent à subir diverses formes de violence et d'exploitation. Madame Hawa, est-ce que ces textes sont appliqués au Niger?
Oui, la CDE, la Convention relative aux droits de l'enfant, a été ratifiée par le Niger et appliquée aussi par le gouvernement à travers le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, ainsi que la charte africaine pour le bien-être de l'enfant. Et ces textes sont vraiment en application ici au Niger.
Mais est-ce que ça marche?
Ça marche bien parce que il y a une direction chargée de la protection de l'enfant ici à Niamey, au ministère, qui est accompagnée par l'UNICEF. Vraiment, les deux instruments juridiques sont appliqués à la lettre.
Madame Khadija, pensez-vous que cette loi marche vraiment au Niger?
Théoriquement, oui. Je le dis assez souvent et quand même, les chiffres le montrent également. Sur ces questions des droits des femmes ou des violences de façon générale, quand même au Niger, le cadre théorique, souvent, je me dis qu'on n'a pas grand-chose à envier aux autres. Théoriquement, nous avons les dispositions qu'il faut, nous mettons en train des mécanismes, des stratégies, mais dans la pratique, va falloir se poser les questions, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, si l'ensemble de ces dispositions-là marchaient effectivement en pratique comme en théorie, on ne serait pas face à des chiffres comme ça en matière de violence dans le cadre familial. Donc, c'est vrai, c'est déjà une bonne chose d'avoir ces textes-là, que le Niger les ait ratifiés, avoir des lois. Mais ça reste encore une autre chose, un autre grand défi à relever quant à l'application réelle. Et c'est ce défi-là qui nous reste à relever quand même au Niger pour pouvoir réussir à protéger l'ensemble des enfants dans le cadre familial et faire baisser les chiffres de violence qui ne font que grimper par rapport aux enfants.
D'accord. Monsieur Alzouma, est-ce que toutes les violences au sein de la famille sont vraiment dénoncées? Si oui, qui peut le faire et qui a le droit de faire un signalement?
Bon, on ne peut pas dire que tous les cas de violence sont signalés. Et on arrive quand même à dénoncer certaines, mais il y a d'autres aussi qui passent sous silence. Surtout quand c'est un membre de la famille ou un parent proche, en tout cas, qui est concerné dans cette violence-là. C'est notamment le cas de viol qu'on avait évoqué en tout début, donc les viols et les agressions sexuelles, qui généralement, dans la majeure partie, sont perpétrés dans le cercle familial, soit par un parent proche ou un voisin. Et les gens ont beaucoup tendance aussi donc à masquer cela, à ne pas dénoncer cela, parce qu'ils savent que s'ils dénoncent, peut-être la personne qui sera incriminée ira en prison ou bien en tout cas subira une sanction. Donc, ou bien ça va porter atteinte à son honneur. Donc tout ça là, on le fait sans penser à cette victime-là, qui est là, qui est une enfant peut-être dont l'avenir est gâché, qui sera traumatisée toute sa vie.
Oui, mais qui peut dénoncer et quelle est la juridiction compétente?
La dénonciation, elle est ouverte à tout le monde.
D'accord.
Que ce soit la victime elle-même, que ce soit le témoin, que ce soit des voisins qui ont en tout cas été témoins et qui ont entendu, nous, ils peuvent venir chez nous informer. Et en ce moment-là, nous, on va leur indiquer les voies et moyens pour porter plainte en bonne et due forme.
D'accord.
Et là, dans certaines formes de violence, et vous savez que même si par ailleurs, les victimes ou la partie, en tout cas, victime, essaie de retirer sa plainte comme on a l'habitude de le rencontrer, donc le parquet peut toujours poursuivre la procédure et aller jusqu'au bout.
À présent, place au portrait de notre émission. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Mme Halima Salmaï Jido de l'association SOS FEVS.
Âgée de 61 ans, Mme Salmaï Halima Jido est mère de 4 enfants. Après l'obtention de son diplôme d'AFPA, diplôme d'aptitude de formation permanente en alphabétisation au CFCA, Centre de formation des cadres de l'alphabétisation de 1978 à 1981. Halima a travaillé plusieurs années dans les bureaux de l'alphabétisation. Elle passa son concours pour poursuivre ses études à l'université de Ouagadougou où elle sortit avec une licence en sociologie éducation des adultes, ce qui lui permet de continuer sa carrière dans l'alphabétisation. Sur le plan social, Halima est une grande activiste depuis 2005. Elle milite au sein d'une ONG SOS FEV, Femmes et Enfants, victimes de violences familiales en tant que volontaire. Elle nous raconte.
J'ai commencé depuis 2005, donc c'est suite à une situation que moi-même j'ai vécue. Pour te dire que j'étais victime, avant d'être acteur. Quand j'avais perdu mon mari, donc j'ai eu petit démêlé avec ma belle famille par rapport à l'héritage de mes enfants. Et je te dis, 20 ans de 2002 à aujourd'hui, 20 ans jusqu'à aujourd'hui, la situation n'est pas réglée, elle est là. Donc j'ai tout remis dans les mains de Dieu. Donc c'est de victime que je suis devenue acteur aujourd'hui. Donc on a fait le parcours, j'ai été, la façon dont on m'a accueilli, on m'a prise en charge, ça m'a impressionnée. Et j'ai dit, mais est-ce que je pouvais venir travailler avec vous? Ils ont accepté volontiers. C'est comme ça que j'ai suivi des formations avec Oxfam, avec l'UNFPA. Beaucoup de partenaires nous ont donné des formations sur les violences. Et voilà, aujourd'hui, on est acteur. On est acteur plein, plein.
Halima Jido, retraitée à la fonction publique depuis 2021. Halima continue d'apporter sa modeste contribution de la lutte contre les violences basées au sein de son ONG.
Et à mon tour, je forme, je sensibilise les femmes, donc dans le cadre de VBG. Et donc au départ, on accueillait les victimes, on hébergeait les victimes chez nous, la présidente et moi. Si on a en tout cas plus de 5, on se partage, on les hébergeait chez nous, on les nourrissait de notre propre poche. Jusqu'à aujourd'hui, défaisant, donc on a eu un centre qui nous a été offert par Angela Marquet. Elle a eu un prix, elle a gardé le trophée et elle nous a donné la monnaie. Donc, et jusqu'à présent, je continue à prendre en charge, à écouter d'abord. Quand il y a des problèmes entre les familles, entre les couples, donc on fait la médiation. Nous, on est contre le divorce, sauf si, en tout cas, ça contraint le couple. Sinon, nous demandons au couple, en tout cas, de se concerter. Et en tout cas, nous voulons qu'il y ait une harmonie dans les foyers. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, on continue la prise en charge. Nous avons eu plusieurs fois cas d'enfants maltraités. Je me souviens, il y a quelques années, quand Soumane Sanda était ministre de la Santé, on a eu une femme qui a brûlé le corps de la fille de son mari. Juste parce que la petite, elle a ouvert le plat, elle a pris un morceau de viande, elle a mangé. Elle a préparé l'eau chaude, elle lui a versé ça sur le corps, au niveau de son sexe. Ça, tout le monde a vu et nous avons plusieurs cas d'enfants maltraités qu'on reçoit. On écoute les enfants, on les oriente vers des psychologues, on les oriente dans les centres médicaux. On a eu plusieurs cas. Et aujourd'hui, même les hommes, nous recevons beaucoup d'hommes violentés. Maintenant que je suis à la retraite, donc je suis vraiment dans les violences. Je suis formatrice, animatrice dans le cadre des VBG, donc violence basée sur le genre.
Alzouma Traoré Ibrahim, chargée des programmes à l'ONG FEV, apprécie le courage de Mme Sarmaï Halima Jido.
Elle fait partie des membres de première heure de l'ONG SOS, où elle a occupé le poste d'animatrice. Elle a pratiquement animé des débats, des séances de sensibilisation, des séances de formation, où vraiment elle est très à l'aise, surtout à langue, ce qui lui a valu en tout cas l'estime de nous autres et membres de cette ONG et de tous les personnels de l'ONG.
Madame Sarmaï Halima attire l'attention de la population à dénoncer les violences avant que ça soit un mal psychologique pour toute la vie.
Avez-vous une remarque sur le portrait de Madame Sarmaï
Kadiga? Oui, je suis quand même, je dirais, impressionnée par le travail quand même qui est en train d'être fait. Et en même temps, je me dirais qu'il nous faut plus de profils engagés comme elle pour pouvoir venir à bout des violences, surtout à l'égard des enfants ou des VBG de façon générale, à l'égard des femmes et des filles.
Nous pensons souvent être dans notre bon droit lorsqu'il s'agit de punir nos enfants pour les éduquer, mais il est important de ne pas perdre de vue le danger que cela peut représenter. Dans le monde entier, les faits montrent qu'il est possible de prévenir la violence à l'encontre des enfants, selon l'OMS. Quelle aide apporter à un parent violent et comment prévenir les violences des parents sur leurs enfants, Madame Hawassadou?
Pour prévenir les violences des parents sur leurs enfants, et le ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a envisagé de prévenir les comportements à risque chez les adolescentes scolarisées et en dehors de l'école, de renforcer le plaidoyer en faveur de la prise en compte des VBG dans les politiques et stratégies nationales et sectorielles de développement, de renforcer les activités de prévention de la stigmatisation des survivants, d'élaborer des outils de communication et de sensibilisation à grande échelle en langue locale, de renforcer les activités de mobilisation communautaire et de sensibilisation sur les violences basées sur les genres en général et les violences faites aux enfants en particulier.
D'accord. Monsieur Alzouma, quelle aide apporter à un parent plutôt violent?
Et un parent violent, moi je pense, comme on l'a dit, c'est vraiment des sensibilisations. C'est le meilleur moyen en tout cas de les toucher. C'est de sensibiliser les différentes communautés sur d'abord le fait que la violence ne peut pas régler en tout cas quoi que ce soit. Et sur le fait aussi que ces violences-là ont des conséquences et des répercussions sur les enfants qu'on doit éviter. Et sur le fait aussi que l'enfant a droit au meilleur et que nous devons faire tout pour que nos enfants puissent vivre dans de très bonnes conditions pour faire des hommes capables, en tout cas, de contribuer au développement de notre pays.
Pour conclure, il est naturel de se sentir désemparé face à certains comportements de nos enfants, mais cela ne justifie pas que nous recourions à la violence. Les maltraitances que nous pouvons infliger à nos enfants et à un impact durable à la fois sur leur santé physiologique et psychique. Elles freinent leur bon développement et dans les cas les plus graves peuvent entraîner leur décès. Elles ont aussi un effet qui affecte différemment chaque enfant à différents niveaux. Toute forme d'abus, de violence et exploitation à l'enfant représente une atteinte grave aux droits fondamentaux de tout être vivant et une violation du droit à l'enfant, à la vie et au développement. Incompatible avec l'état de droit, les parents doivent garantir aux enfants un esprit sain pour le développement de la société et le défi à relever, c'est d'abord de faire respecter la convention relative aux droits de l'enfant pour que les violences cessent selon nos invités. C'est un thème qui suscite beaucoup de débats, mais nous sommes malheureusement au terme de ce forum. Merci chers invités d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons parlé de la violence basée sur le genre, cas des violences exercées par les parents sur les enfants. Nous étions avec Hawa Sadou Amadou du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, avec M. Alzouma de l'ONG SOS Fève, femmes et enfants victimes de violences familiales. Et enfin de Khadijatou Idani, présidente de l'AJFSR Niger. Je suis Rafika Taher à la présentation, à la technique Mustapha Ayouba. Rendez-vous mardi prochain à la même heure pour un autre thème du forum Espace Femmes du studio Kalangou. Place maintenant à notre rubrique Lotti qui sensibilise en humour. Excellente soirée à tous et au revoir.
Affairage.
Salam alaikum. Assalam alaikum. Tout, ou bien il n'y a personne dans cette maison. Balki, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis là, je te salue, tu ne réponds pas. Ou bien tu ne m'entendais pas.
Désolée, ma soeur. Comment puis-je t'entendre alors que je suis plongée dans mes pensées et en pleine réflexion?
Mais qu'est-ce qui ne va pas? Au point que tu sois préoccupée de la sorte, hein, ma belle?
Ce n'est pas ton cher beau-frère qui a pris mon enfant Abdul et l'a donné à un de ses cousins marabouts pour qu'il devienne talibé, sans pour autant me consulter à l'avance ou même avoir mon accord en tant que mère.
Quoi? N'est-ce pas Abdul qui passe en classe de CM2 cette année et qui a à peine 10 ans? Et d'ailleurs, même ces genres de pratiques existent encore de nos jours?
Oui, le même Abdul. Tu vois, c'est exactement ce que ton beau-frère a fait. Abdul a toujours été assidu à l'école et à l'école coranique. L'un n'a jamais empêché l'autre. Jusqu'à présent, je me demande ce qui a bien poussé son père à poser un tel acte.
Pourtant, ce genre de comportement doit être abandonné. S'il trouvait que peut-être l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à l'école coranique, il pouvait simplement l'inscrire dans une école franco-arabe, là où sont conciliés les deux. Ton mari ne sait-il pas que le droit à l'éducation est l'un des droits fondamentaux de l'enfant?
Moi, dans toute cette histoire, ce n'est même pas cela qui m'a le plus affectée. C'est le fait de prendre mon enfant, le fruit de mes entrailles, et le donner à quelqu'un sans pour autant me consulter ou même obtenir mon accord.
Ça, c'était pleure, Balki, s'il te plaît. Tu sais, la loi d'orientation du système éducatif nigérien adoptée le 1er juin 1998, garantit l'éducation aux enfants de 4 à 18 ans. En dehors de cette loi, ton mari ne devrait pas donner cet enfant à qui que ce soit, sans ton avis ou ton consentement. Ce sont des pratiques qui existaient à l'époque de nos ancêtres qui devraient être bannies. L'éducation est le droit le plus absolu d'un enfant.
Grande sœur, vraiment, c'est vous qui connaissez cela. Je ne sais même pas si mon mari connaît ses propres devoirs envers ses enfants. À plus forte raison, les droits des enfants.
Dans ces cas, Balki, c'est toi-même qui devrais attirer l'attention de ton mari sur son comportement. S'il refuse de t'écouter, réfère-toi au sage de la famille. Il ne doit pas retirer cet enfant de l'école et le donner à un marabout, même si ce dernier est son cousin. D'autant plus que les écoles franco-arabes dans lesquelles sont dispensées les deux éducations existent.
Vraiment, merci beaucoup, grande sœur, de m'avoir éclairée, afin que je puisse aider mon enfant. J'en parlerai à son père dès son retour à la maison.
Je t'en prie, ma belle. C'est la moindre des choses. Allez, je te laisse. Bonne journée, ma petite.
Bonne journée aussi à toi, grande sœur.
Bye bye.
Bye bye.